Donc, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte donc sur le travail parlementaire. Alors, comme je vous le disais, nous devons recevoir la députée Paula Forteza, notamment connue pour avoir été rapporteure sur la loi de transposition du règlement général de la protection des données. Et étant finalement indisponible, nous avons le plaisir de recevoir un de ses collaborateurs parlementaires, pardon, Christian Quest. Alors, Christian est notamment connu dans les milieux libristes pour sa forte implication dans le projet OpenStreetMap. Et nous l'avions d'ailleurs reçu pour en parler lors de notre émission du 24 décembre 2019. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est essayer de comprendre, comme je vous le disais, l'envers du décor du travail parlementaire. Voilà comment fonctionnent les équipes des députés, l'importance centrale du travail en commission. Hein, c'est vrai qu'on voit surtout les travaux, enfin, on a l'image de l'hémicycle, mais c'est vraiment en commission que se fait le cœur du travail. Le travail de la préparation des amendements, les relations avec les représentants d'intérêt, la prise en l'état, les groupes politiques, choses importantes. Donc le sujet est vaste, donc on va essayer de couvrir un maximum de terrain dans le peu de temps que nous avons finalement. Et vous n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Et donc j'ai le plaisir d'être avec Christian Quest. Bonjour Christian.
Bonjour.
Tu m'entends? Alors tu es donc par le collaborateur parlementaire de la députée Paula Forteza. Bon, déjà, depuis combien de temps pourrait être intéressant, mais je pense que c'est aussi une bonne manière à commencer. La question du sujet du travail parlementaire, c'est quoi un collaborateur parlementaire? Quel est son rôle?
Oh, il peut avoir plein plein de rôles. C'est d'assister en fait le parlementaire dans sa mission de représentant du peuple à l'Assemblée. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a évidemment du travail de secrétariat, ce qui est assez évident, gérer l'agenda, répondre aux sollicitations, répondre aux emails. Et puis il y a tout le travail législatif, d'études des textes qui arrivent, voire même de propositions de nouveaux textes. Donc tout ce qui est amendement et tout ça.
Alors vous êtes combien dans votre équipe, par exemple, de collaborateurs?
Actuellement on est 5, on a des stagiaires aussi. Et bon, voilà, c'est à peu près la moyenne, je pense. Peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne.
Alors il me semble que parce qu'on dit souvent que l'équipe, enfin, qu'un bureau de parlementaire, c'est presque une TPE-PME. Parce qu'il me semble, voilà, qu'ils sont autonomes dans leur choix, ils se servent de ce qu'on appelle leur réserve parlementaire, tu me corrigeras si je me trompe. Donc il y a une certaine autonomie de ce point de vue-là. Recrutive, en somme. Après, ils ont un contrat de travail, vous avez un contrat de travail classique, j'imagine.
Alors, au niveau du financement, il y a ce qu'on appelle l'AFM, l'allocation de frais de mandat, donc qui permet de subvenir à certaines dépenses. Il y a une enveloppe qui est prévue pour la rémunération des collaborateurs, qui est d'environ 10 000 euros, tout compris. Et ensuite, oui, on est sous contrat, on a un contrat assez particulier, c'est un CDI. Mais donc à durée indéterminée, mais déterminée par le mandat. C'est-à-dire que si le parlementaire perd son mandat, si il démissionne ou si par exemple il devient ministre, eh bien on perd notre job.
Oui, ça fait penser que si vous trouvez quelque part, l'entreprise que représenterait ça finalement disparaît, ou le contrat, le travail part avec. Il y a une certaine incohérence. Alors, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de savoir. Alors, ça va pas être le cœur de notre échange, mais bon, puisqu'on est une association qui promeut le logiciel libre, la question des outils techniques, qui ont, j'imagine, une place importante dans votre travail quotidien. Là, à nouveau, les parlementaires doivent être assez autonomes, j'imagine, dans ces choix. Vous êtes complètement autonome. Alors là, on imagine que les services de l'Assemblée ont des services techniques. Comment ça se voilà, est-ce qu'ils vous proposent des outils? Est-ce que vous êtes justement autonome? Est-ce qu'il y a des rapports avec eux? Comment ça se met en place tout ça?
Alors, l'Assemblée offre tout un ensemble de services aux parlementaires, donc met à disposition du matériel, met à disposition aussi une infrastructure, donc de la connexion réseau, des services de messagerie, des services de type partage de fichiers, enfin ce genre de choses. Il y a aussi tous les services internes de l'Assemblée, de la gestion même de l'Assemblée, c'est-à-dire l'agenda, toute la gestion législative. Des textes, enfin, ouais, on va dire, l'intranet de l'Assemblée. Et donc, mais on a une autonomie, évidemment. On n'est pas du tout obligé de passer par les services que propose l'Assemblée, par exemple, en termes d'outils. On peut très bien déployer ses propres outils si on a des besoins qui ne sont pas satisfaits ou qu'on n'est pas satisfait de ce qui est proposé.
Et je connais malheureusement un peu le sens de la réponse, mais j'imagine que la plupart des services proposés ou utilisés au sein de l'Assemblée ne sont pas tous du logiciel libre.
Oui, pas tous, c'est un euphémisme. Il n'y a pas beaucoup de logiciels libres dans ce qui est, dans ce qui est déployé. C'est essentiellement des outils Microsoft, donc c'est de l'Outlook, c'est du webmail Outlook, Exchange, etc. Voilà, donc c'est pas l'idéal pour quelqu'un comme moi, mais bon, c'est pas grave, j'ai ma machine et je suis autonome.
Alors, Paula Fort fait partie des députés qui sont plutôt estampillés, on va dire, spécialistes des questions relatives aux enjeux numériques. Et elle est notamment connue pour utiliser du logiciel libre, hein, il me semble, parmi les outils qu'elle utilise. Donc, je crois que son site est sous WordPress. Elle a un agenda qui est librement accessible et sous Nextcloud. Il me semble que tu m'as expliqué que c'est toi qui as fait justement mis en place ce système. Donc c'est un peu aussi des choses par exemple, et ça c'est on peut le saluer bien sûr. Est-ce que du coup il y a eu des difficultés à mettre ça en place? Est-ce que ça a peut-être fait des émules parmi d'autres parlementaires? Comment ça se passe?
Alors, non, il n'y a pas eu de difficulté à mettre en place, vu qu'on est autonome, on loue un serveur dédié que j'administre complètement, sur lequel j'ai déployé les outils dont j'avais besoin. Mon prédécesseur avait fait de même, avait utilisé des solutions un petit peu différentes, mais toutes libres. C'était vraiment c'est dans l'ADN de Paula Forteza d'utiliser des outils libres et open source. Donc, et d'en faire la promotion aussi. Donc, on a vraiment utilisé et exploré dans les outils qui existent ceux qui peuvent être bien adaptés à un travail quotidien, un travail en confidentialité, en sécurité, etc. Parce que ça, c'est des points quand même qui sont assez importants quand on parle du Parlement quand même.
Alors du coup, tu parlais d'autonomie, des outils, et on évoquait lorsqu'on a discuté un peu avant l'émission que la difficulté qu'il peut peut-être y avoir, tu peux nous expliquer un peu comment ça se résout ou pas, d'interconnexion, puisqu'il y a pas besoin des systèmes, ont besoin de communiquer entre eux pour passer des informations. Vous utilisez certains outils qui ne sont pas forcément les mêmes des autres. Est-ce que ça peut y avoir des frictions par rapport à ça?
Alors, il y a des frictions qui peuvent être liées à des problèmes d'interopérabilité, et puis il y a aussi des frictions qui viennent des règles de sécurité du système d'information de l'Assemblée, qui fait que, par exemple, même si on peut gérer un agenda avec les outils que nous propose l'Assemblée, il est impossible de le partager à l'extérieur. On est du coup obligé d'avoir un agenda qui ne soit pas géré par ce que nous propose l'Assemblée, parce qu'on ne pourrait pas le partager, en fait. Donc il y a des choses comme ça qui tiennent soit de l'interopérabilité, soit de règles de sécurité qu'on peut comprendre, mais qui du coup sont un peu contraignantes quand on veut être un petit peu plus ouvert que la moyenne.
Alors, en discuter, et peut-être la période du confinement, cette situation de pandémie a amené son lot de difficultés et la nécessité d'avoir des outils, de visioconférence, j'imagine d'échange de textes, etc. Peut-être là, en plus, ça a heurté des manques qu'il pouvait y avoir. Ça a sans doute été un révélateur. Comment toi, tu l'as perçu, et notamment plus sur un bagage technique qui t'a offert, j'imagine, un regard particulier sur ce sujet?
Alors, on a déjà l'habitude de faire du télétravail. Moi, à titre personnel, je fais déjà une grande partie de mon travail à distance. Donc, ça ne m'a pas beaucoup, beaucoup perturbé, sauf le fait de ne pas voir ses collègues, ce qui est quand même, au bout d'un certain temps, un petit peu gênant. Mais donc, on était assez habitué à travailler d'une façon très dématérialisée et qui ne pose pas de problème avec du télétravail. On a l'habitude d'utiliser des pads, on a l'habitude d'utiliser ce genre d'outils, donc ça ne nous a pas vraiment posé de gros problèmes. J'ai déployé des petits outils nouveaux qu'on a, on a profité un peu de ce temps atypique pour tester de nouveaux outils, par exemple CryptPad, que je ne connaissais pas trop et que j'ai beaucoup apprécié. Donc un logiciel qui est développé essentiellement en France, donc c'est intéressant de le signaler aussi. Voilà, un pad sécurisé avec du chiffrement de bout en bout. Et plus qu'un pad, on peut avoir du tableur, ce genre de choses. Donc on a aussi utilisé et abusé de Jitsi. D'instances publiques, il y en a eu pas mal qui ont été installées, je pense aux instances de Scaleway par exemple, mais il y a aussi la fondation d'entreprise Free qui en a installé, il y en a d'autres. On a utilisé ces outils-là qu'on avait déjà un peu l'habitude d'utiliser, mais là on les a utilisés beaucoup plus régulièrement, ça c'est sûr.
Justement, tu parles d'outils, CryptPad, Jitsi, on avait fait des émissions avec des personnes qui gèrent, qui pilotent un peu ces projets, les émissions 61 et 63 pour être précis, mais voilà, on mettra les liens sur notre page pour les personnes qui souhaitent creuser la question. Merci pour ces précisions. Je pense qu'on avance et qu'on passe peut-être un petit peu à ce qui va faire le sel du travail parlementaire, c'est la production finalement de législative, la production de la loi, qui est quand même un rôle déterminant de l'Assemblée. On a évoqué l'importance du travail en commission. Donc, il va y avoir des projets de loi, des propositions de loi, des propositions de texte. Voilà, comment vous les accueillez? J'imagine que vous répartissez le travail en fonction des spécialités de chacun. Vous allez produire des amendements, chercher à comment vous attaquez un texte en fait pour dire les choses de manière très générale.
Alors oui, tu as raison de préciser qu'il y a une grosse partie du travail à l'Assemblée qui n'est pas le travail en hémicycle. L'hémicycle, c'est la partie visible de l'iceberg, mais l'iceberg, il est gigantesque en dessous. Alors le choix par rapport aux textes qui arrivent sur lesquels on va beaucoup plus s'investir, travailler, il y a tellement de textes qui sont mis à l'ordre du jour que c'est extrêmement difficile, sauf à faire un travail superficiel, de s'exprimer sur tous les textes. Donc, il y a des textes sur lesquels, naturellement, certains parlementaires ont plus d'appétence et vont du coup beaucoup plus s'investir parce que c'est un sujet qu'ils connaissent bien, c'est un sujet qu'ils maîtrisent. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de travail, des choses beaucoup plus fouillées. C'est ça qui fait la qualité du travail de construction de la loi. C'est évidemment quand des gens connaissent certains sujets, ça évite d'avoir des amendements de principe ou de posture pour avoir des choses un peu plus techniques qui vont dans des détails qui peuvent être parfois très importants. Une virgule mal placée dans un texte de loi peut en changer son sens, donc il faut être très très attentif à la façon qu'on a d'écrire, mais aussi à la façon que les autres ont écrit certains textes pour dire attention, là ça ne va pas, il ne faut pas que ça soit écrit comme ça, il faut que ça soit écrit autrement. Donc ça c'est un travail énorme en commission, mais même en amont, parce qu'il faut les travailler, les préparer, ces amendements, les répartir, lister un petit peu tout ce qui a besoin d'être revu dans le texte qui est proposé, et le faire en collaboration avec d'autres parlementaires avec qui on travaille régulièrement.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Justement, ce qu'on voit, donc, les textes sont inscrits à l'ordre du jour. La commission saisie au fond, parce qu'il y a plusieurs commissions sur les sujets. Bon, la commission qui va saisir du texte, c'est là où il va y avoir les premières réunions, on va dire, de travail. Mais même en amont, tout cela se prépare, parce que, comme tu dis, ça demande énormément de préparation. Paula Forteza, elle est membre de la commission des lois, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des spécificités? On sait que c'est une commission qui est quand même assez importante. Elle touche notamment à des textes importants du point de vue de l'April. Voilà, il me semble tout ce qui doit être droit d'auteur je confonds avec le niveau européen, pardon. Est-ce qu'il y a des spécificités sur ce travail en commission des lois?
Alors, c'est pas trop mon domaine, donc je vais pas pouvoir beaucoup vous renseigner sur la partie purement légie. Je sais qu'il y a certains sujets en fonction du type d'amendement et du type de sujet, c'est pas quelque chose qu'on peut voir dans n'importe quelle commission. Donc, un député ne peut pas siéger dans un grand nombre de commissions non plus. Il a un nombre de, enfin, il ne peut pas être partout, ni par volonté, ni par définition. Il y a des choix, des attributions qui sont faites. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a un travail entre les députés, parce que si un député doit faire avancer un amendement dans une commission, alors que c'est une commission à laquelle il ne fait pas directement partie, il va le faire soutenir par quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc il y a tout ce travail un peu d'équipe, et ça n'est pas qu'un travail en solo, le travail d'un député, hein.
Oui, c'est ça où je voulais en venir, et je l'ai très mal exprimé aussi dans ce travail en amont. Alors, il y a la partie rédactionnelle qui est très importante. Déjà rédactionnelle pour faire des propositions d'amendement, prendre connaissance des autres et essayer de voir s'il y a des propositions similaires en termes d'arrangement. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail de relations, de créer des rapports de force, de s'organiser. Comment ça s'organise ça? Je me dis qu'il y a des contacts plus ou moins formels entre les députés. Il y a réunion préparatoire, sans doute au sein des groupes aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire?
Alors oui, quand il y a des nouveaux textes, le texte il est analysé par le groupe pour voir un petit peu quels sont déjà les points de principe actuels du groupe par rapport au texte pour voir ce qui a besoin d'être rectifié, d'être amélioré, d'être peaufiné. Et puis, comme je disais, vu que les parlementaires ne sont pas dans toutes les commissions qui vont étudier un texte, ils peuvent avoir besoin d'un collègue qui va porter des amendements en commission voilà. Donc, il y a vraiment ce besoin de fonctionnement entre les députés, ce qui rend les groupes parlementaires finalement assez importants quand même, parce que du coup, il y a une forme de travail d'équipe qui s'instaure, et pas simplement un travail solitaire d'un député qui aurait de bonnes idées d'amendement, mais bon, il ne peut pas les porter tout seul, il faut qu'il ait un peu de soutien, il faut éventuellement qu'il y ait quelqu'un qui le présente à sa place parce que ce n'est pas dans la bonne commission où il est, etc., etc. Donc il y a vraiment besoin de, un travail du parlementaire et de son équipe, mais aussi un travail avec le reste du groupe et de ses collègues. Ouais.
Du coup, ça c'est à l'échelle d'un texte, mais je mets, les textes dont tu en parlais sont extrêmement nombreux, donc ça en plus ça peut avoir un impact. Est-ce que comment toi tu perçois peut-être parce qu'on imagine le terme ne se veut pas péjoratif, mais presque du service rendu. Tiens, tu me soutiens sur ce texte, je vais te soutenir sur l'autre. Il y a ces rapports-là et ça fait partie un peu de la création sur long terme d'un rapport de force. Je pense que j'imagine que c'est une réalité du travail parlementaire. Et toi, du coup, toi, tu étais déjà, on va dire à titre personnel, il me semble que tu étais intéressé par les questions du travail parlementaire. Et maintenant que tu es passé de l'autre côté des coulisses un petit peu, quelle est ta vision du travail? Comment comment ça a pu faire évoluer, par exemple, ta vision du travail parlementaire, si ça l'a changé?
Bon, c'est vrai que j'avais un regard extérieur là-dessus. Maintenant, que j'ai connu aussi quand je travaillais à la mission Etalab, entre autres, quand on a travaillé sur la loi Lemaire, la loi pour une République numérique. Donc, on a beaucoup suivi l'avancée de ce texte. Donc là, c'était un texte. Et après, c'est vrai que observer de l'extérieur et observer de l'intérieur, c'est pas la même chose. Oui, je découvre surtout le rythme effréné qu'il y a pour travailler sur les textes. L'essentiel des textes aujourd'hui passe en procédure d'urgence. Donc, ça veut dire des délais relativement raccourcis, des allers-retours qui sont moins nombreux, ce genre de choses. Et ça force à aller toujours plus vite, ce qui parfois permet pas de prendre le temps et le recul pour que des textes de loi soient suffisamment on va dire, soit plus des fondations pour construire des choses sur le long terme que souvent des replâtrages de textes précédents qui ont été sortis un peu vite aussi. Donc moi, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est d'une fuite en avant dans la quantité de production législative, et puis aussi un peu des textes de circonstances, d'affichage qui sont très discutables. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans des questions politiques, je ne pensais pas tellement au sujet de Libre à vous, mais voilà, bon, je pense que vous avez sûrement beaucoup discuté de la loi Avia. Plus récemment, là, on a pu discuter, on a été nombreux à discuter de la fameuse application Stop Covid. Bon, voilà, il y a des choses, on sent que c'est pour boucher des choses à court terme et pas tellement pour construire sur du long terme, malheureusement.
Ouais, je dirais même qu'on sait complètement le sujet, on est vraiment dans ce qui fait finalement le sang hein, du travail parlementaire, parce que c'est. Alors il y a toute une logistique, toute une procédure, toute une manière de faire correctement, on va dire, un bon travail législatif, mais ça reste du travail politique. Et bah, tous ces coulisses-là, les rapports de force qu'il peut y avoir derrière, c'est exactement le sujet. Et le fait de passer des lois, parce que clairement, d'un point de vue extérieur, quand on travaille sur ces questions, moi je suis d'accord, on a l'impression que c'est devenu la norme, objectivement. D'ailleurs, les procédures d'urgence qui ont un effet de limiter le nombre d'allers-retours, comme tu disais, et donc la qualité, le nombre de débats, la capacité aussi pour des contributions extérieures de se faire, donc c'est très important. Évidemment, on a parlé de la loi Avia qui mériterait tout un autre sujet, et je pense qu'on en parlera beaucoup la semaine prochaine, puisqu'on parlera justement de la surlégislation, on va dire, d'Internet, parce que la loi Avia, on peut le dire en deux mots, qui est une loi absolument terrifiante, à quel point elle est liberticide. Oui, c'est le sujet. Alors, puisqu'on parle de rapport politique, il y a cette question aussi, qu'on entend souvent, c'est des lobbies, des représentations extérieures qui vont proposer des choses, qui n'est pas forcément d'où l'April fait du travail de lobbying, de relations extérieures, puisqu'elle propose des amendements, mais elle essaie de le faire en transparence et selon ce qu'elle considère être l'intérêt général de son point de vue, selon son éthique. Je pense que c'est pas le sens de toutes les propositions. Comment vous recevez, parce que je me dis que vous recevez énormément de propositions d'amendements, comment ça se passe au sein de votre équipe, comment vous le percevez? Comment vous traitez ces propositions?
Alors, c'est pas forcément sous la forme de propositions d'amendements. Hein. Là, c'est déjà, ça va déjà très très loin. Non, c'est souvent des contacts pour expliquer en fait la problématique de ceci, cela. Vous rendez, par exemple, là, sur la loi pour l'économie circulaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer des lobbies au niveau des fabricants de matériel électronique ou ce genre de choses, qui ont des arguments parfois qui sont tout à fait recevables. Hein, s'il n'y a pas, c'est pas forcément. Il y a des choses qui peuvent être tout à fait recevables sur le réalisme, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on écrive des textes idéalistes et qui ne puissent pas être applicables. Donc il y a des moments où il faut quand même avoir. Une vue pas trop éloignée de la réalité pour pouvoir faire évoluer réellement les choses et pas simplement avoir des textes de principe finalement inappliqués parce que inapplicables quoi. Donc bon, c'est toujours intéressant de toute façon d'écouter les différents avis même si on n'est pas d'accord avec et puis bon, faut faire attention, par contre, effectivement, on va dire, de la manipulation, c'est-à-dire de l'information totalement tronquée, partiale, qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Je ne citerai pas de nom, mais un grand réseau social a fait des ateliers pour expliquer aux députés ce qu'était le travail de modération sur un réseau social. Il fallait quand même avoir un peu d'esprit critique pour démonter leur argumentation. Donc il y a un côté parfois manipulatoire de certains lobbies qui peut être assez dangereux, surtout dans des domaines qui ne sont pas vraiment maîtrisés par les députés.
Oui, mais si on va par là, moi j'aurais envie de dire, c'est pas le rôle. J'imagine, je vais me lancer. J'imagine que tu parles de Facebook, mais ça pourrait être d'autres réseaux. J'imagine que c'est en lien avec la loi Avia, puisque Facebook va être amené à jouer le rôle de l'État, en fait, de la justice, et de décider ce qui va relever d'une parole légitime. Facebook, quelque part, est dans ce rôle. C'est aussi, du coup, je me lance aux députés. Justement, c'est tout ça aussi le travail législatif. Aux députés et à leurs équipes, bah, d'être capable d'avoir l'esprit critique et le recul sur les informations qu'ils vont recevoir pour pouvoir intelligemment construire la loi. Malheureusement, sur certaines prises de parole de certains, voilà, de certains députés, mais de tous bancs confondus, on se demande où est parfois ce recul critique, qu'on voit qu'il suffit de dire, voilà, bien sûr, on est tous contre la haine en ligne pour continuer à parler de la même loi. Mais voilà, les enjeux sont quand même bien plus complexes que simplement mettre à la charge de Facebook. Ça, je pense que l'enjeu est difficile à trancher. Il est un peu, peut-être qu'il faut éviter de peut-être uniquement blâmer l'acteur privé, mais peut-être l'esprit critique et la capacité d'analyse, bah, des équipes législatives.
Oui, là, je parlais d'un lobbying qui, comment dire, qui tient plus, dans certains cas, d'une forme de manipulation que d'une claire information des parlementaires. Qu'un lobby explique quel problème ça va causer, etc., etc., c'est une chose. Quand les informations qui sont données sont fausses, ça pose d'autres questions. Voilà, c'est juste ça que je voulais signaler, et je n'ai pas dit de qui je parlais.
Non, je me suis permis d'imaginer, tu vois, voilà, de tirer mes propres conclusions, mais je ne mets pas les mots dans la bouche. Je pense qu'il pourrait être intéressant qu'on évoque ensuite, peut-être, bah, quels sont les outils, bah, pour justement permettre un travail informé, notamment, voilà, que ce soit au moment de la commission, en amont, au moment de l'hémicycle, voilà, pour avoir à permettre aux parlementaires d'avoir des votes informés. Mais peut-être qu'on va faire une petite pause musicale avant pour s'aérer un peu, s'aérer la tête. Et je vous propose d'écouter Waiting for Nothing par The Fisherman. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM, La Voix des Possibles.
Cause Commune 93.1.
I am walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing, I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by, they're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Sitting behind a cloud, a strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing, I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows her. I will always love her.
Nous venons d'écouter Waiting for Nothing par The Fisherman, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution. Alors, comme la pause précédente, hein, il s'agit d'un morceau que nous avons découvert grâce au site aubutdufil.com, qui en plus donne tout un panel d'informations, enfin tout un tas d'informations historiques sur les groupes. Je ne peux que vous inviter à découvrir ce aubutdufil.com, et vous retrouverez bien sûr les références sur le site april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France, et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge d'affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Christian Quest, collaborateur parlementaire de la députée Paula Forteza, l'envers du décor du travail parlementaire. Voilà, n'hésitez pas à participer à notre conversation via le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc Christian, ouais, on discutait un petit peu, je me posais la question, comment, il y a beaucoup d'informations, potentiellement tentatives de manipulation, mais je pense que c'est un peu le jeu politique aussi. Comment les parlementaires et les équipes parlementaires font le tri de ça? Quels outils sont à leur disposition pour avoir un aspect informé individuellement, mais aussi collectivement, en tant que, au sein de la commission, des groupes politiques, etc.
Alors, bon, il n'y a pas vraiment d'outils. Il y a des outils mis en place par l'Assemblée pour gérer les textes, c'est-à-dire pour proposer des amendements et ce genre de choses. Par contre, des outils pour travailler de façon collaborative sur les textes, c'est pas quelque chose qui a l'air d'être très développé. Alors, évidemment, je connais pas le fonctionnement de tous les groupes, de tous les partis qui peuvent avoir des modes assez différents. Ouais, je suis dans un passage particulier. Il y a un nouveau groupe qui a été créé avec comme coprésidente Paula Forteza, et donc je suis impliqué pour donner un coup de main, pour proposer des outils pour qu'il y ait un travail collaboratif un peu plus efficace qui se mette en place. Donc on est en train de réfléchir à certains outils pour aider les parlementaires à faire le travail législatif un petit peu autrement et d'une façon je ne peux pas dire plus moderne sortir des simples outils bureautiques qui sont très très utilisés mais qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus efficace pour suivre tout un projet quoi.
Alors, je t'ai peut-être pas ma question, mais tu abordes quelque chose de très intéressant. Effectivement, les outils collaboratifs, et on nous vend beaucoup, la Startup Nation, et même sans rentrer dans ce terme péjoratif, on a des outils à notre disposition qui doivent permettre la meilleure collaboration. Quand je parlais d'outils, je pensais par exemple, on a des, sans aller jusqu'à la commission d'enquête, mais c'est vrai qu'on voit parfois quand on suit des auditions d'experts, etc. Donc par exemple, vous pouvez demander à certaines auditions, je crois que c'est plutôt les groupes qui vont pouvoir demander des auditions, comment ça se passe? Par exemple, comment un réseau social, quel qu'il soit, peut venir au sein du Parlement proposer les informations qui manipuleraient pour aller à ses fins.
Je ne comprends pas très bien ta question, je suis désolé.
On sait qu'il y a des auditions en amont de certains textes, on va chercher à avoir, pour avoir de l'information, on va faire venir des experts. Donc qui peut-être, comment on décide qui on invite, comment est-ce que ça se met en place, ça. Donc je pense que c'est au niveau de la commission, des commissions plutôt, qui vont avoir ces forums. Et puis tu nous disais par exemple qu'il va y avoir des entités privées, donc un réseau social qui vont, au sein de l'Assemblée, proposer des conférences ou des choses pour proposer leurs informations, leur vérité, mais ça, elles sont dans leur rôle. Et ça aussi, comment ça se met en place, mais peut-être que tu ne sais pas. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça.
Alors, pour les commissions, pour les auditions et tout ça, il y a des listes de gens qui sont proposés. Alors, je ne connais pas le mécanisme précis. Donc, il y a en général le président et les rapporteurs de la commission qui gèrent un petit peu l'agenda des auditions qui vont être faites. Il y a des personnes qui sont sélectionnées pour être entendues sur tel ou tel sujet. Je ne sais pas s'il y a des mécanismes pour que des personnes se proposent pour être entendues. Ça, je peux pas vraiment dire. Je vois aussi sur le chat que parfois il y a des huis clos en commission. Oui, c'est possible. Il y a certaines commissions qui sont pas totalement ouvertes. Bon, il y a des raisons qui peuvent se comprendre, d'autres où ça peut être un peu plus compliqué. Je pense par exemple à la commission de la défense, ça peut se comprendre que tout ne soit pas sur la place publique. Pour d'autres commissions, bon, ça peut être un peu plus compliqué, mais ça permet aussi parfois de libérer la parole des gens qui vont être auditionnés. Le fait de savoir que c'est à huis clos, ils peuvent s'exprimer plus librement. Donc, c'est pas forcément négatif.
Ouais, mais ça, je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. Après, on pourrait dire tout est transparent et tout le public, en fait, devrait pouvoir suivre et avoir un débat complètement informé. Mais je pense que c'est un débat qui est important. On pourra d'ailleurs, je pense qu'on avait parlé avec Regards Citoyens quand ils étaient intervenus. Moi, je soulevais aussi cette question-là, puisqu'on parlait de la potentiellement influence extérieure, et à l'APRI, par exemple, parfois peut proposer sur des textes. On va prendre contact avec des parlementaires pour proposer aussi nos argumentaires, notre point de vue. La question est de le faire en transparence, et c'est tout l'enjeu aussi pour des rapports de force, pas pour une structure comme l'APRI, d'avoir un historique, d'avoir un certain nombre, plus de 4000 membres, etc., pour arriver avec un poids politique. Donc là, je pense qu'il y a des arbitrages aussi qui vont le faire. On sait que les groupes politiques vont négocier peut-être aussi entre elles. D'ailleurs, tu parlais des groupes là, dans les outils de collaboration. Le temps avance, et je pense que c'est un sujet qui est intéressant, notamment parce que Paula Forteza était avant dans le groupe majoritaire LREM, et elle a créé un groupe. Et on sait que les groupes politiques sont une instance extrêmement importante dans le travail parlementaire. Donc toi, tu as été finalement aussi collaborateur d'une députée LREM et maintenant d'une députée de l'opposition. Voilà, comment toi tu perçois ce changement? Quelle est l'importance pour toi? Voilà, des groupes. Excuse-moi, je bafouille, donc je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Pour moi, pour mon travail, ça n'a pas changé grand-chose. Je continue à faire de la veille et du conseil sur les sujets numériques et puis d'entretenir toute une partie d'outils et d'infrastructures. Donc, si tu veux, quel que soit le parti auquel elle est rattachée, ça change pas grand-chose pour moi. Il y a juste peut-être plus de possibilités aujourd'hui d'être entendu au niveau du groupe, certes beaucoup plus petit. Il y a ça, il y a beaucoup plus de choses à construire là, avec ce groupe tout nouveau, tout frais. Donc voilà, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. De partir pas d'une feuille blanche, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses encore à écrire dans ce groupe sur la façon de fonctionner, sur les outils. Moi, j'essaye d'apporter mes connaissances. Je cherche pas à imposer. Hein. Je pense que c'est un peu la règle avec le libre. Hein. Il faut arriver à convaincre et pas à forcer les gens à basculer. Donc, en leur montrant que oui, on peut utiliser autre chose que Google Docs. Voilà, donc ça se fait petit à petit, quoi.
Et moi, on a vu notamment, j'ai trouvé assez significatif là, en discussion générale là, sur Stop Covid, donc une application, on peut dire beaucoup de mal, hein, tant les liberticides et intrusives, et qu'elle pose finalement, s'oppose à l'éthique du libre en étant vraiment dans un rapport, je pense, de surveillance. Enfin bon, c'est pas le sujet. En tout cas, Paula Forteza a pris plutôt bonne, hein, d'ailleurs, et on a senti, moi j'ai senti du moins, on la sent plus libérée dans sa parole. Est-ce que tu, voilà, quand d'un point de vue d'un regard extérieur que tu as peut-être eu avant de travailler là-dedans, on voit la discipline du groupe majoritaire qui impose finalement, qui limite la capacité de sortir du sentier prévu. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que voilà, tu as vu qu'il y avait effectivement une discipline de groupe forte ou pas, dans le sens majoritaire?
C'est sûr qu'à partir du moment où on est dans un groupe, il y a aussi un fonctionnement du groupe, des règles du groupe, des rapports de force qui font qu'on a un petit peu moins de... qu'il faut faire des compromis, qu'il faut... voilà. Mais bon, je pense que même au sein d'une association, on retrouve la même chose. On ne peut pas vraiment faire les choses... tout seul, on a besoin d'être ensemble pour porter certains sujets un peu plus loin. Donc voilà. Alors après, quand on se sent plus bien avec le fonctionnement d'un groupe, ben oui, on prend ses distances, on forque, voilà, et puis on essaye de faire un petit peu autrement. C'est on le connaît bien dans le livre, hein, tout ça. Hein.
Et c'est vrai qu'on parle des groupes, et il faut dire que les groupes, être dans un groupe est extrêmement important pour un député ou une députée, c'est-à-dire que ça, hors groupe, on a beaucoup moins de temps de parole, on a beaucoup moins de capacité de poser des questions, que ce soit écrites orales, le dépôt, proposition de texte sont beaucoup plus difficiles. On voit aussi l'importance, mais quelque part aussi normal, de devoir créer finalement des compromis avec d'autres personnes pour avoir un groupe. Mais on sait, être dans un groupe est très important, et le risque d'être exclu d'un groupe est aussi plus que une réalité politique pour les parlementaires.
Oui, c'est sûr. Il y a une chose qui est importante à l'Assemblée, c'est le règlement de l'Assemblée qui est un beau pavé. Il y a quand même pas mal de pages dedans. Et il y a beaucoup de choses qu'un député ne peut pas faire seul, ne peut pas faire directement, mais ne peut faire qu'à travers son groupe parlementaire. Ou bien il n'y a que le groupe parlementaire qui peut le faire et pas un député tout seul. Donc, être non inscrit, c'est-à-dire dans aucun groupe, ben c'est d'une certaine façon une liberté totale, si on regarde un côté de la pièce, mais de l'autre côté, c'est moins de possibilités parce que justement, on est dans aucun groupe. Donc, c'est il y a des avantages, des inconvénients, Les députés qui sont non inscrits, qui sont dans aucun groupe, sont quand même très très peu nombreux, et c'est pas pour rien. Donc il y a beaucoup plus de possibilités quand on est à l'intérieur d'un groupe, et quand il y a un certain nombre de députés qui sont non inscrits ou qui souhaitent un peu changer les choses, ben voilà, ils se reconstituent sous forme d'un groupe. Là, on a vu en 10 jours qu'on en a eu deux nouveaux qui sont créés, le 9e et le 10e groupe. Donc voilà, il y a de temps en temps des changements comme ça. Ouais.
Alors, je vois que heureusement le temps nous échappe un peu. Alors, il y a des questions qui ont été posées, mais je pense que si on refait un sujet, on pourrait les aborder. Bah, merci beaucoup, Christian. Sauf si tu as peut-être un dernier mot que tu aurais aimé partager. Sinon, je te souhaite une bonne après-midi. Je ne vais pas te censurer.
Alors, je vois quand même des questions là. Je vais essayer de répondre très rapidement. Écrire aux députés, ça marche. Oui, ils reçoivent les mails, ils les lisent. Ensuite, répondre systématiquement à tout le monde, on essaye tous de le faire. Après, il faut voir la quantité. Soit on renvoie malheureusement un mail un peu générique et pas forcément avec un suivi, ce qu'on essaye d'éviter. Mais quand vous recevez beaucoup, beaucoup de messages, c'est effectivement compliqué. Donc voilà, c'est pas parfait. On essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours parfait. Hein.
Oui, ça reste des humains qui reçoivent les informations. Christian, vraiment merci d'avoir passé ce temps avec nous. Je te souhaite une très bonne fin de journée et puis à bientôt.
Ben oui, puis je reviendrai pour d'autres sujets. On parlait d'archives de logiciels avant. Je sais pas si tu es au courant, moi je m'occupe d'archiver l'open data. Donc voilà, c'est peut-être un autre sujet.
Rendez-vous est pris.